Génération Passepartout, épisode 10. Aujourd'hui, on jase rééducation périnéale, enceinte et en postnatal. C'est parti! Bienvenue sur Génération Passepartout, un podcast pour les parents, en devenir ou en pleine dent. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petit Pas Portail Parents, au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repenser la naissance autrement, célébrer la petite enfance comme il se doit, mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération Passepartout, ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute! L'information contenue dans ce podcast ne remplace en aucun cas les conseils professionnels d'un médecin, d'une sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Il ne vise pas à donner de conseils précis ni individualisés et ne devrait pas être interprété de la sorte. Vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié pour vos questions médicales personnelles avant de faire des choix éclairés. La rééducation périnéale, c'est quand même mon sujet de prédilection. Je pourrais facilement me laisser emporter pour te convaincre de la pertinence et de l'importance de la rééducation périnéale, autant pendant la grossesse que suite à l'accouchement. Monter sur mes grands chevaux pour témoigner à quel point les femmes ont besoin d'être outillées et informées en prévention, puis m'étendre sur le sujet pendant des heures. Mais juste pour toi, parce que je considère que ton temps est bien précieux, je vais essayer de faire ce cours. Puis mettons que tu en veux plus, ben, on se fera un autre épisode. Ça fait que je commence par la rééducation périnéale enceinte. Parce que oui, dans le meilleur des mondes, je te conseille fortement d'entamer un suivi avec une physio périnéale pendant ta grossesse. Pas besoin d'attendre de te faire pipi dessus en achouement ou d'avoir de la misère à te tourner dans ton lit la nuit pour consulter. Même si je sais bien que les chances sont pas mal plus grandes que t'attendre d'avoir des symptômes avant de consulter, j'ose espérer te convaincre que ça vaut la peine de le faire en prévention. Je t'ai-tu déjà dit que mon cheval de bataille, c'était la prévention? Puis, je n'essaie pas de te convaincre pour renflouer les coffres de l'ensemble des physios périnéales du Québec. On est quand même bien baqué à ce sujet-là en termes de données probantes. On sait d'ailleurs que les femmes qui font leur exercice du plancher pelvien dès la 20e semaine de grossesse réduisent de 50 % leur risque d'incontinence urinaire après l'accouchement. C'est quand même pas rien. On sait aussi qu'une femme sur quatre ne contracte pas correctement les muscles de son plancher pelvien avec la même consigne. Certaines vont même faire complètement le contraire et pousser vers le bas. D'où l'importance de consulter en rééducation périnéale pendant la grossesse, même si tout a l'air de bien aller. Juste la grossesse en soi comporte tellement de changements, que ce soit sur le plan physique, psychologique ou encore émotionnel. On a juste à penser à la prise de poids, la posture qui va changer pendant 9 mois, en conséquence de la bédaine qui pousse, puis du centre de gravité qui se déplace graduellement. Il y a les changements hormonaux aussi. Bref, c'est le cocktail parfait pour que toutes sortes de symptômes fassent leur apparition, tout aussi glamour les uns que les autres. Mais avant de parler des différentes problématiques, je te parle rapido du plancher pelvien. Parce que même si c'est moins tabou et un peu plus tendance d'en parler, aussi bien partir sur les mêmes bases. À force de répéter les mêmes choses comme professionnel, on finit parfois par penser que tout le monde est au courant. Mais non, c'est loin d'être le cas. Alors, le plancher pelvien ou le périnée, on est bien bon là-dedans en santé d'avoir plusieurs mots qui veulent dire exactement la même affaire. Donc, le plancher pelvien, c'est un groupe de muscles composé de 3 étages, de 3 couches musculaires qui vont s'étendre entre le pubis à l'avant et le coccyx à l'arrière et qui vont venir entourer l'entrée vaginale, l'urètre et l'anus. Vous aurez compris ici qu'on parle du plancher pelvien féminin, mais les hommes aussi en ont un. C'est juste pas le sujet du jour. Donc, la job du plancher pelvien, c'est d'abord d'assurer la continence. Donc, d'éviter d'avoir des fuites d'urine, mais aussi des fuites de gaz et de sel. Puis, comme le plancher pelvien referme la base du bassin, il a aussi comme fonction de supporter tous les organes internes. Donc, la vessie, le rectum, l'utérus, les intestins, bref, tout ce qui se trouve dans la cavité abdominale. D'autres rôles qui sont peut-être un peu moins abordés, mais tout aussi importants, si on pense entre autres à son rôle très important dans la sexualité, parce que, entre autres, son bon fonctionnement va permettre d'atteindre l'orgasme ou d'amplifier l'orgasme, en plus de contribuer à la stabilité du bassin et du bas du dos. Donc, j'espère qu'il y a au moins une de ces fonctions-là qui te parle juste assez pour que tu considères l'importance d'en prendre soin, autant durant la période prénatale que postnatale. Donc, pour en revenir maintenant aux problématiques les plus fréquentes, on sait entre autres que 40 à 60% des femmes enceintes vont souffrir d'incontinence urinaire. C'est beaucoup. D'autres vont avoir à dealer avec la constipation, avec des envies urgentes, des douleurs au bas du dos, au bassin, à la symphyse pubienne ou encore des douleurs aux relations sexuelles. Donc, que tu sois enceinte ou en postnatal, la première rencontre en physio-périnéale comporte généralement une longue discussion. D'abord pour mieux comprendre ta situation, mieux comprendre tes habitudes de vie et tes symptômes, si c'est le cas. Mais pas besoin de symptômes pour consulter, hein, on se rappelle. Puis là, ben, quand on parle des habitudes de vie, ça se peut que tu sois surprise parce que oui, on va te demander combien de fois par jour tu vas faire pipi, de quoi ont l'air tes selles, est-ce que tu forces pour aller à la toilette? Tout ça, c'est pour mieux t'outiller. Puis là, je sais que ça peut être intimidant de faire ce premier pas-là, d'abord de prendre rendez-vous en physio-périnéale et de figurer finalement, on s'entend là, les examens, un examen vaginal, un examen gynécologique, c'est jamais vraiment emballant. Donc, ça peut être un peu angoissant de se dire qu'on s'en va consulter pour évaluer de long en large ton plancher pelvien. Donc, je t'explique tout ça pour te mettre en contexte, peut-être pour dédramatiser un peu comment ça se passe et surtout mieux comprendre. Donc, une fois ce long questionnaire-là complété, l'évaluation va comprendre généralement aussi un examen vaginal qui peut ressembler à un examen gynécologique parce que c'est la meilleure façon d'évaluer la fonction de ton plancher pelvien. C'est aussi ça qui va nous permettre d'établir un plan d'intervention avec des conseils personnalisés, soit pour diminuer ou pour régler tes symptômes au quotidien. Puis, on ne se cachera pas que ça vient pas mal tout le temps avec des exercices à faire à la maison. Puis ça, ça dépend de la condition de ton plancher pelvien à toi. Donc, ça se peut qu'on aille cibler davantage la force, l'endurance, la coordination ou à l'inverse, la capacité à relâcher, à détendre les muscles du plancher pelvien. Puis là, on va se le dire parce qu'il y a encore un mythe qui peut avoir la couenne dure. Ce n'est pas vrai que le renforcement des muscles du plancher pelvien durant la grossesse va augmenter les risques de déchirure à l'accouchement. Donc, ce n'est pas parce qu'on contracte son plancher pelvien de façon répétée que le plancher pelvien va devenir hyper rigide et va automatiquement déchirer. Dans la mesure où on accorde autant d'importance au relâchement qu'à la contraction. Donc, généralement, en contexte de grossesse, le renforcement des muscles du plancher pelvien va permettre de conserver ses acquis, malgré la prise de poids, malgré la pression qui est exercée sur le plancher pelvien, en plus d'optimiser la récupération des muscles en postnatal. Donc, le fait d'améliorer sa conscience corporelle, d'améliorer la conscience de son plancher pelvien, va permettre aussi un meilleur contrôle du relâchement musculaire, ce qui est un élément essentiel pour la pousser à l'accouchement. Donc, tu vas pouvoir aussi être guidé dans ta pratique d'activité physique, et donc dépendamment les activités que tu pratiquais déjà, ce que tu aimerais continuer. Donc, c'est pas parce que tu es enceinte que tu dois absolument tout arrêter, au contraire. Je t'en parle d'ailleurs dans l'épisode 6 sur l'activité physique pendant la grossesse. Mais là, reste avec moi. Si ça t'intéresse, tu iras l'écouter plus tard. Donc, on poursuit maintenant avec la préparation de son plancher pelvien en vue de l'accouchement. Parce que je t'ai parlé plus tôt du renforcement du plancher pelvien, mais c'est pas tout. Donc, on peut préparer ton périnée en vue de l'accouchement en intégrant des exercices d'assouplissement, mais aussi en apprenant différentes notions, soit à propos des différents choix de position pendant l'accouchement, ou encore la théorie sur le réflexe expulsif ou la poussée physiologique lors de la naissance. Puis ça, je t'explique ça de long en large dans notre préparation à la naissance connaissance. Je te laisserai d'ailleurs le lien dans les notes de l'épisode. Donc, au niveau des exercices d'assouplissement, il y a certaines études qui vont démontrer que les exercices débutés à partir de la 34e semaine de grossesse vont réduire les risques de déchirure au niveau du périnée à l'accouchement ou encore les risques d'épisiotomie. Donc, qui sont à ce moment-là une incision qui est faite par le personnel médical au niveau du périnée. Alors, pourquoi on s'en passerait? Si on poursuit maintenant avec une autre problématique très fréquente, pour ne pas dire toujours présente, on va parler de la diastase, donc la diastase des grands droits de l'abdomen, qui est une problématique, comme je le disais, ultra fréquente, autant pendant la grossesse qu'en postpartum. Donc, on parle de 66 à 100% des femmes qui vont avoir une diastase au troisième trimestre de la grossesse. À ce stade-là, ça n'a rien de pathologique, ça n'a rien de problématique. Au contraire, c'est physiologique. Donc, plus bébé va occuper de l'espace, plus l'utérus augmente son volume et plus les muscles abdominaux vont avoir besoin de s'allonger, de s'étirer. Mais vient un moment où ils ont atteint leur pleine capacité d'étirement. Donc, c'est là où les grands droits vont venir se séparer et où la ligne blanche, qu'on appelle aussi la linea alba, au centre, va venir s'étirer. Donc, la diastase, elle est due à l'étirement, à l'expansion de la paroi abdominale et aussi à l'augmentation de la pression à l'intérieur de l'abdomen. Et ça va être dû, entre autres, à la prise de poids pendant la grossesse, ça peut être lié à la constipation ou encore au changement au niveau de la posture ou de la respiration. Donc, c'est faux de penser que c'est seulement une pathologie qui est présente pendant la grossesse. Donc, on pourrait avoir, pour ne pas stéréotyper, mais un homme dans la cinquantaine avec une petite bédaine qui ne gère pas bien sa pression intra-abdominale et qui souffre aussi de diastase. Donc, comme on connaît la grande prévalence de la diastase enceinte, on ne se cachera pas que c'est peu probable de l'éviter complètement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir en prévention pour limiter les dégâts. Donc, on peut déjà apprendre à gérer mieux la pression abdominale, à adopter des bonnes habitudes au niveau postural, mais aussi à choisir des exercices qui sont appropriés pour les abdominaux enceintes et mettre toutes les chances de son côté pour favoriser la récupération en postnatal. Finalement, bon nombre de femmes enceintes vont expérimenter des douleurs physiques, des douleurs musculo-squelettiques. On sait entre autres que les douleurs lombaires, les douleurs au dos peuvent toucher jusqu'à 75 % des femmes enceintes. Donc, sacro-iliaque, symphyse pubienne, sciatique de grossesse, ligaments ronds, ce n'est pas les sources de douleurs qui manquent. Puis, il y a plusieurs modalités de traitement en physio-périnéale qui peuvent soulager ces inconforts-là. On pense entre autres à l'éducation sur les postures à éviter, les postures à adopter, l'éducation sur les changements de position, la thérapie manuelle, les exercices de stabilisation ou même de proposer des ceintures sacro-iliaques au besoin. Certains ou certaines physios plus généralistes, si je peux dire, ont aussi une certaine expertise pour la gestion de la diastase. Excepté pour tout ce qui concerne la portion périnéale, entre autres l'examen vaginal. Donc ça, c'est réservé aux physio-périnéales. Donc, pour conclure cette première partie-là sur la rééducation périnéale pendant la période prénatale, on remarque aussi souvent que les femmes qui ont appris à contracter les muscles du plancher pelvien de façon adéquate avant l'accouchement vont avoir plus de facilité à intégrer les exercices dès les premières semaines, voire même les premiers jours suivant la naissance, ce qui va grandement favoriser et accélérer aussi la récupération en postnatal. Parlons-en justement de cette fameuse période postnatale. L'accouchement vaginal va être à l'origine de plusieurs facteurs de risque qui peuvent causer une dysfonction du plancher pelvien. On peut penser à la grosseur de la tête de bébé, à son poids à la naissance, la durée de la poussée, l'utilisation de forceps ou de ventouses, le degré de déchirure. Tout ça fait partie des nombreux facteurs de risque qui peuvent mener à l'affaiblissement du plancher pelvien ou encore à une descente d'organes. Mais attention, c'est pas parce que tu accouches par césarienne que tu es 100% blindée. Tu as quand même porté bébé pendant 9 mois aussi, avec toute l'augmentation de pression que ça comporte. En plus d'être une véritable opération chirurgicale qui va affecter directement tes abdominaux. Donc même si les répercussions possibles au niveau du plancher pelvien sont souvent moins grande, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences sur ton périnée ou sur ton corps en général. Donc oui, ça vaut aussi la peine de consulter une physio en rééducation périnéale. De toute façon, tes abdominaux font aussi partie de la même chaîne musculaire, vont travailler en synergie, en collaboration avec le plancher pelvien. Donc, les abdos qui sont sectionnés, qui sont coupés finalement pendant la césarienne, bien, ça peut avoir un lien avec la connexion ou la difficulté à recruter de façon synchronisée le plancher pelvien et les abdominaux profonds. Puis, le renforcement des abdominaux va être nécessaire dans tous les cas, donc que tu accouches par voie vaginale ou encore par césarienne. La cicatrice va d'ailleurs être à travailler, entre autres, à venir masser pour éviter qu'il y ait des adhérences au niveau de la cicatrice qui pourraient aussi interférer avec la contraction de tes abdominaux. Donc, une fois que tu as accouché, dès les premières heures qui suivent ou dès qu'il n'y a plus de douleur, tu peux déjà commencer des exercices quotidiens de contraction et de relaxation du plancher pelvien. En plus des exercices peut-être plus de base au niveau de la respiration abdominale, entre autres. Donc, pendant 9 mois, ta respiration a été un peu contrainte, a été limitée parce que bébé occupait de plus en plus d'espace et que ton diaphragme n'avait pas bien de place pour bouger. Donc, une fois que bébé est sorti, une fois qu'on a mis bébé au monde, c'est pas parce que tout d'un coup le diaphragme a de la place que la respiration abdominale redevient naturelle et fluide pour autant. Donc ça vaut la peine à ce moment-là de réintégrer la respiration abdominale. Puis dès la fin des segments, dès la fin des lochies après l'accouchement, donc à peu près un 4 à 6 semaines après l'accouchement, c'est là où un suivi en physio-périnéale va être recommandé pour t'aider à récupérer, mais aussi pour retourner à tes activités de façon sécuritaire. Donc, on l'a dit, on recommande de renforcer rapidement les muscles du plancher pelvien après l'accouchement. Puis ça, même si tu sens pas grand-chose. Donc, on veut éviter de perdre la connexion, donc la commande que le cerveau envoie à tes muscles de contracter, on veut l'entretenir au maximum. Puis, il ne faut pas oublier non plus que c'est pas parce que tu n'as pas de symptômes en postpartum que ton plancher pelvien est top shape. Donc, on sait entre autres que 50% des femmes qui ont accouché par voie vaginale vont avoir un certain degré de descente d'organes. Puis, de ces femmes-là, il y a seulement 10 à 20% qui vont être symptomatiques. Donc, toutes les autres ont une descente sans manifestation particulière. Puis là, je te dis pas ça pour te faire peur, mais toujours dans le but d'informer, de sensibiliser le plus de femmes possible. Parce que je te l'ai dit, la prévention j'ai choisi d'en faire ma mission, même si c'est pas toujours si sexy. Donc l'autre, une des autres problématiques principales en postnatal, c'est l'incontinence urinaire. Donc le tiers des femmes va souffrir d'incontinence urinaire pendant le quatrième trimestre, donc les mois qui suivent l'accouchement. C'est super fréquent, mais c'est pas banal pour autant. Donc, d'autant plus qu'on parle déjà d'incontinence urinaire persistante dès qu'on dépasse là, un 6 à 8 semaines après l'accouchement. Fait que t'aies des fuites en courant ou en éternuant, ou que t'aies pas le temps de te rendre aux toilettes sans échapper une ou deux gouttes, c'est pas normal. Puis, ça se traite, contrairement à ce qu'on nous fait croire dans les infopubs de couches pour adultes à 40 ans. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour s'en occuper. Donc, même si tu as accouché il y a de cela quelques mois ou même quelques années et que tu restes prise isolée avec tes symptômes, il est toujours temps d'adresser la situation et de se prendre en main et d'améliorer surtout les symptômes qui peuvent persister. Une autre chose qu'on peut adresser en postnatal, c'est les cicatrices. J'en ai glissé un petit mot tout à l'heure avec la césarienne, mais que ce soit une cicatrice de césarienne ou encore une cicatrice au niveau du périnée, donc s'il y a eu déchirure ou épisiotomie, ben il peut y avoir des adhérences. Des adhérences un peu comme des bandes fibreuses, rigides, un peu comme l'image d'une toile d'araignée, finalement, qui peuvent s'étendre à distance ou au pourtour de la cicatrice. Donc, le massage de la cicatrice va permettre de mobiliser les tissus, de s'assurer que les couches de peau, les couches de tissu glissent les unes sur les autres pour réduire les douleurs ou éviter qu'il y ait des douleurs. Puis, autant pour les douleurs dans le bas de l'abdomen que les douleurs aux relations sexuelles. Parce que si on pense à l'entrée vaginale au niveau de la déchirure, si la cicatrice demeure très rigide, peu mobile et qu'il y a des adhérences, bien, l'entrée vaginale agit un peu comme un système d'alarme. Donc, par exemple, à la pression ou à la pénétration, c'est comme si toute la pression va être canalisée, va être dirigée dans cette zone-là qui est peu mobile, qui est très rigide. Puis là, le corps va réagir. Finalement, le système d'alarme va partir dès qu'il y a une pression à l'entrée, puis tout le reste va se mettre en mode protection, en mode défense. Donc, tous les muscles à l'interne, les muscles profonds du plancher pelvien vont venir se crisper, vont venir s'activer, ce qui peut aussi amener des douleurs au fond vaginal. Donc là, on est pris dans un beau cercle vicieux où c'est difficile de s'en sortir. Donc, de grâce, ne pas normaliser les douleurs aux relations sexuelles en postnatal, même si vous avez accouché il n'y a pas si longtemps. C'est des problématiques à adresser rapidement pour éviter d'entretenir ce cercle vicieux-là et de tolérer finalement des douleurs. Donc, après ça vient aussi l'appréhension. Si je sais que ça fait mal à chaque fois, probablement que le désir ne sera pas là et que à chaque fois, je vais craindre, je vais appréhender ce qui s'en vient, je vais me mettre encore plus en mode carapace, en mode protection. Donc, on ne tolère pas les douleurs périnéales, on consulte et on travaille les cicatrices. Sans oublier aussi que la femme qui allait va avoir encore un certain déficit en estrogène. Donc, ce qui a tendance à entraîner la sécheresse vaginale, un manque de lubrification et qui peut contribuer aussi aux douleurs périnéales. Mais en plus de contribuer aux douleurs périnéales, ça peut être à l'origine d'une récupération qui va être plus lente, qui va se faire au ralenti. Puis là, c'est pas une indication de cesser l'allaitement en raison d'un plancher pelvien moins bien rétabli ou moins fonctionnel, mais faut quand même le garder en tête finalement que l'allaitement peut avoir un certain effet sur la fonction des muscles du plancher pelvien. Un autre élément qui est assez fréquent, qui n'est pas si évident à gérer non plus, mais c'est souvent l'aspect esthétique au niveau de l'abdomen. Donc, la peau qui peut être plus flasque, le ventre qui est plus relâché, le petit ventre bondi en fin de journée qui nous tanne. Puis tout ça, mais ça peut s'expliquer par différents facteurs, différents éléments, encore une fois. On peut penser entre autres à la diastase, donc à l'espace entre les grands droits, à une ligne blanche qui fait moins bien sa job finalement, donc qui peut nous donner l'apparence d'un ventre un peu plus relâché, un peu plus affaissé. Ça peut être un manque d'efficacité des muscles stabilisateurs, donc entre autres le transverse de l'abdomen, les abdos profonds. Ça peut aussi être un aspect plus génétique, donc au niveau de la qualité des tissus conjonctifs, au niveau de l'élasticité des tissus. Des fois, ça peut jouer sur la phase de récupération également. Ou ça peut être au niveau alimentaire, au niveau digestif, si on a beaucoup de ballonnement, de constipation, tout ça peut affecter aussi l'apparence au niveau de l'abdomen. Puis, je reviens rapidement sur la diastase, mais il fut un temps où on accordait beaucoup d'importance au nombre de doigts qu'on pouvait insérer au centre entre les grands droits, donc l'espace entre les grands droits. Ce qu'on a constaté au fil du temps, au fil des recherches, c'est que cet espace-là, la distance qui existe entre les grands droits est peut-être pas si importante que ça. Ce qui est important au final, c'est d'être capable de recruter les muscles, les abdominaux profonds, entre autres. Donc, avoir une compétence au niveau de l'engagement musculaire. Et c'est ce qui ferait une différence au niveau fonctionnel dans nos activités, dans notre quotidien avec bébé aussi. Finalement, pour cette période postnatale-là, le rôle de la physio-périnéale, c'est aussi de vous guider dans la reprise de vos activités sportives. Donc, ce qu'on veut éviter ici, c'est d'en faire trop vite. Souvent, on a dû adapter nos entraînements, adapter nos activités pendant 9 mois parce qu'on avait à cohabiter avec un bébé dans la bédaine. Mais là, c'est pas parce que bébé n'est plus dans la bédaine que votre corps est prêt à reprendre toutes ses activités du jour au lendemain. Donc, ce qu'on sait, c'est que le corps s'adapte dans la mesure où on lui laisse le temps de s'adapter. Et malheureusement, il y a encore trop de femmes en postnatal qui consultent, soit après des deuxièmes, troisièmes bébés, puis qui me disent « Oh, après mon premier, j'ai repris bien trop rapidement. Avoir su, j'aurais fait les choses autrement. » Donc là, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été avertie. L'important, entre autres, dans le premier mois suivant l'accouchement, on va prioriser le repos ou du moins l'équilibre entre l'effet de la gravité, donc le temps qu'on passe debout à la marche avec bébé dans les bras, et de venir l'équilibrer avec des périodes plus allongées, à l'horizontale, même coucher sur le dos avec un ou deux coussins sous les fesses pour remonter le bassin, décharger la pression sur le plancher pelvien. Donc, on a besoin d'équilibrer tout ça parce que la gravité est un peu notre ennemi là, quand on vient juste de pousser un bébé puis qu'on a un plancher pelvien affaibli et des abdominaux pas super compétents. Après ça, ben, il y a tout l'aspect niveau d'énergie globale, fatigue, son état général aussi. Donc, il y a souvent une période lune de miel là où on serait prête à déplacer des montagnes, aller faire de la randonnée avec bébé en porte-bébé, où il y a comme un petit boost là, d'énergie et de c'est ça, là, on est prête à faire toutes sortes d'affaires, puis après vient comme un petit crash, un petit down, où là on se dit « Ouf, ça vient de me rentrer dedans, j'en ai fait un peu trop » ou « la fatigue prend le dessus ». Donc, il faut juste faire attention dans la reprise. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit graduel. Donc, la clé ici, c'est ce que je disais, que ce soit très graduel finalement et surtout que ce soit individualisé. Donc, Le fait que ce soit progressif, ben c'est ton progressif à toi et pas celui de la voisine. Parce qu'il faut aussi considérer notre niveau d'activité pendant la grossesse. Donc, si pour une femme, elle a arrêté toutes ses activités parce qu'elle avait des méga nausées, puis je sais pas, moi, vomissait 3-4 fois par jour, pas capable de continuer ses activités, versus quelqu'un qui a continué à courir jusqu'à 32 semaines, bien, peut-être que la reprise sera pas la même en postnatal non plus. Donc, ça va dépendre de ce qu'on a fait pendant la grossesse, ça va dépendre de notre propre récupération suite à l'accouchement, et ça va dépendre des symptômes qui sont présents aussi. Donc, on peut pas faire un copier-coller, on peut pas dire que toutes les femmes en postnatal vont pouvoir reprendre la course ou recommencer à sauter 3 mois après avoir accouché. Ça dépend de beaucoup trop de facteurs, finalement. Mais ce qu'on sait aussi, ce qu'on souhaite véhiculer, finalement, c'est que la reprise d'activité physique se fasse sans symptômes. Donc, pas de fuite urinaire, pas de sensation de lourdeur ou de pression au niveau vaginal ou au niveau du périnée, pas de douleur, puis ça, c'est des douleurs en général, donc douleur au niveau du plancher pelvien, au niveau du bas de l'abdomen, mais douleur physique, musculo-squelettique en général. Et on surveille ces symptômes-là autant pendant l'activité physique que dans le 24 heures qui suit cette activité-là. Donc, on ne poursuit pas ou on n'augmente pas le niveau d'intensité s'il y a des symptômes qui se présentent. Dernier point, parce que je vous ai dit que je pouvais en parler beaucoup trop longtemps, puis là, je vois le temps qui file. Encore une fois, dans l'idée de pas faire peur, finalement. Donc, si toutefois, il y a des symptômes qui se manifestent, que ce soit à la marche, que ce soit à la course, que ce soit peu importe l'activité que vous pratiquez, c'est un signal que votre corps vous envoie pour vous dire qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Donc, peut-être qu'il faut voir, peut-être qu'il faut changer d'activité, peut-être qu'il faut diminuer l'intensité, peut-être qu'il faut diminuer le volume. Donc, on en a fait juste un petit peu trop longtemps. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut tout arrêter et se mettre au repos complet. Donc, on le disait, le corps s'adapte dans la mesure où on lui laisse le temps de s'adapter. Mais pour s'adapter, ça lui prend aussi des stress mécaniques, ça lui prend aussi des contraintes. Donc, le fait de se mettre 100% au repos puis de se dire, ben dans un mois, je vais reprendre où est-ce que j'en étais, ça se peut que ce ne soit pas la recette gagnante encore une fois. Donc, la clé, la progression graduelle et encore une fois, le fait d'être accompagné par une physio périnéale, je pense que c'est de mettre toutes les chances de son côté. Donc, j'espère avoir été assez succincte, mais vous avoir donné le maximum d'informations pour que vous soyez en mesure de mieux figurer, de mieux comprendre l'importance, la pertinence de la rééducation périnéale, autant enceinte que suite à l'accouchement. Et si tu n'es pas dans ni une ni l'autre des situations, donc tu n'es pas enceinte, puis tu n'as pas accouché récemment, mais que tu dis « mon Dieu, que tout le monde devrait savoir ça », ben, je t'invite à partager l'épisode en grand nombre pour qu'on continue de mettre la prévention de l'avant et que les femmes soient informées. Alors, si tu partages ça, je te dis un grand merci de participer à la mission de prévention. Dans le segment Passe vite aujourd'hui, je te conseille fortement si tu es enceinte ou si tu connais des femmes enceintes dans ton entourage à aller jeter un coup d'œil sur notre site web pour consulter tous les détails de notre préparation à la naissance connaissance. Parce que tu vas y retrouver, entre autres, le contenu un peu plus détaillé, les différents modules, mais sache que dans cette préparation à la naissance très complète, tu vas retrouver également l'enseignement des exercices d'assouplissement du plancher pelvien, donc pour mieux comprendre, mieux appliquer les exercices en prévention. Donc, je te laisse le lien dans les notes de l'épisode pour tous les détails de notre préparation à la naissance connaissance. Et si c'est pas pour toi, si c'est pas toi qui es enceinte, ben n'hésite pas à partager à des femmes de ton entourage parce que un commentaire qui revient extrêmement souvent, c'est « j'aurais donc aimé avoir accès à ces informations-là avant d'accoucher ». Puis malheureusement, ben on s'en rend compte ou on tombe sur ce genre de ressources-là une fois qu'on a bébé dans les bras, qu'on a peut-être déchiré puis qu'on est en train de guérir avec les fesses dans le bain-de-siège. Donc, pour contribuer à la mission, pour contribuer à ce que le plus de femmes enceintes, de futures mamans, aient accès à ces informations-là, mais je t'invite grandement à partager le lien de notre formation connaissance. Puis aujourd'hui, comme deuxième ressource coup de pouce, je te parle du site web de l'OPPQ, donc l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, parce qu'en consultant le site web, il y a un onglet « Trouver un membre » et c'est à cet endroit que tu peux trouver une physiothérapeute. Je dis une là parce que il n'y a pas énormément d'hommes qui pratiquent en physio périnéale. Donc, tu pourras trouver une physiothérapeute en rééducation périnéale près de chez toi. Donc, tu peux entrer, entre autres, ton code postal ou ta ville, entrer dans les spécialités ou les expertises, rééducation périnéale et pelvienne. Tu peux même jusqu'à aller cibler, par exemple, pour la grossesse, pour la femme enceinte, et il va te sortir une liste de professionnels. Donc, rappelle-toi que pour tout ce qui comporte un examen vaginal, une évaluation des muscles du plancher pelvien, c'est exclusif au physio périnéal, alors que certains autres physios peuvent adresser les problématiques plus de type musculo-squelettique. Donc, si on pense aux douleurs dans le bas du dos, aux douleurs de bassin, à la gestion de la diastase au niveau des abdominaux, donc certains physios vont être compétents pour le faire également. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur le site web de l'Ordre en cliquant sur l'onglet « Trouver un membre ». Alors, je te laisse le lien aussi dans les notes de l'épisode. Dans le segment mot de passe aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas de témoignage. Tout s'est passé beaucoup trop vite dans les dernières semaines pour que j'aie le temps de recueillir les différents témoignages en lien avec cet épisode-ci. Mais c'est là où je fais appel à toi. Donc, si tu as été suivi en physio périnéale, que ce soit enceinte et ou en postnatal, je suis vraiment curieuse de recueillir ton témoignage à toi. Donc, j'aimerais, le cœur t'en dit, que tu nous partages ton expérience. Qu'est-ce que ça a pu changer peut-être sur ton expérience de naissance ou encore sur ta récupération en postnatal? Donc, dans les notes du podcast, tu vas retrouver l'adresse courriel pour nous joindre. Et je serais vraiment ravie de lire ton témoignage par rapport à ton expérience en physio périnéale. Je te remercie d'avance pour ton partage. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as apprécié le contenu de cet épisode, mais aussi celui de l'ensemble de nos épisodes jusqu'à maintenant. Si oui, je t'invite peut-être à nous laisser des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour faire connaître le podcast. Tu peux même partager pour contribuer à la mission, pour partager notre voix finalement pour que plusieurs futures mamans, nouvelles mamans, entendent et aient accès à ces informations-là. Donc, je te remercie pour ton écoute encore une fois. Puis, dans le prochain épisode de la semaine prochaine, on va se jaser du rôle de la doula ou accompagnante à la naissance. À bientôt!